Daniel Tanuro, collapsologie, toutes les dérives idéologiques sont possibles. Les nombreux effets du dérèglement climatique sont sous nos yeux. La non-linéarité de ce processus rend les projections futures incertaines. Mais il ne fait aucun doute que le modèle économique dominant est l'une de ses principales causes. Bon, ça on est d'accord. Ancien ingénieur agronome et auteur de « L'impossible capitalisme vert », Daniel Tanuro défend une alternative éco-socialiste, une rupture radicale avec le productivisme qui a longtemps imprégné le courant socialiste majoritaire. Ah, c'est bien de le parler de ça. On en, du coup, pour ceux qui veulent, on avait lu un article là-dessus. Je le mets, à chaque fois, je vous le partage, hein, mais moi, il m'a tellement marqué. De Koe Sato, justement, sur le communisme décroissant. Oui, justement, il critique tout ça. Alors, je sais, hein, je vous le mets toujours en avant, cet article-là, mais il m'a vraiment tellement marqué que je vous le partage. Mais de l'urgence à la catastrophe, il n'est parfois qu'un pas que la collapsologie franchit sans hésiter. Ses partisans vont affirmant que l'effondrement de la civilisation que nous connaissons aura lieu dans un avenir très proche et qu'il est déjà trop tard pour agir là-dessus. Tanuro se porte en faux. Nous en discutons. Vous avez écrit que l'écosocialisme est une autre chose qu'une nouvelle étiquette sur une vieille bouteille. Qu'est-ce que ce mot porte de si singulier ? En vrai, un des gros précurseurs de l'écosocialisme, c'est André Gorz, je crois, en France. Et c'est vrai que ça n'a pas trop été mis en avant, je crois, dernièrement, au niveau politique. Dis pas communiste, il y a des PTSD de Roussel ici. Force à vous, les... J'avoue, le communiste avec Roussel, au secours. Bah justement, là, à mon avis, je pense que Black Pudding et Fulcrum doivent apprécier Roussel fort, à mon avis. Une rupture radicale avec l'idée que le socialisme serait nécessaire pour libérer les forces productives matérielles des entraves capitalistes et permettre ainsi leur développement illimité, condition de l'émancipation humaine par la domination de la nature. Il est vrai que chez Marx, chercheur à la pensée ouverte, les formules prométhéennes sont soit encadrées, soit contrebalancées ailleurs dans un naturalisme sincère et une analyse qui met à nu le caractère destructeur du capitalisme. Donc ça, on en parle souvent, notamment le métabolisme, toute la question métabolique autour de ça. Le PC ne mérite pas le mot communisme, on est d'accord, hein, je suis vraiment d'accord avec ça. Dans Le Capital, il écrit que « la seule liberté possible est que l'homme social, les producteurs associés, gèrent rationnellement leur échange matériel, non pardon, leur échange de matière avec la nature et le fassent dans des conditions les plus dignes, les plus conformes à leur nature humaine. » John Bellamy Foster voit dans cette formule la marque d'une écologie de Marx. Donc ça, on a déjà lu pas mal d'articles là-dessus. Mais premièrement, cette écologie est un chantier collatéral à peine entamé par Marx lui-même. Deuxièmement, et surtout, les marxistes ultérieurs ont abandonné ce chantier pour retomber dans les formules stéréotypées et mécanisées de ce progrès. Donc ça, en vrai, c'est en train d'évoluer. Donc il y a beaucoup de marxistes qui évoluent sur la question, notamment les marxistes décoloniaux, notamment les marxistes, voilà, on a vu le japonais Koe Saito. Donc encore une fois, ne pas mettre tous les mêmes marxistes dans le même lot, quoi. Il y a quelques exceptions, Walter Benjamin est le plus remarquable, mais elles sont restées marginales. La dégénérescence stalinienne ne suffit pas à expliquer cette réalité, la critique doit creuser plus profond. Il faut sans anachronisme, mais sans complaisance, débusquer les conceptions qui ont encombré le marxisme de scories productivistes, comme disait Daniel Ben Saïd. Oui, et en vrai, ça, bah, il y a quand même un des trucs importants à rappeler, c'est que quand même, il y a une étape du marxisme, je crois, qui dit qu'en gros, il faut passer par le capitalisme pour amener la révolution. Ou je sais plus, bref, il y a un des gars qui dit ça, tu vois. Bonne nuit, Knacky. Et bon, voilà, ça, on a vu que c'était une impasse théorique, et qu'il faut justement dépasser ça, quoi. C'est Marx qui a dit ça. Oh, voilà, bon, pardon, bah, tu vois, c'est Marx qui a dit ça. Donc, il l'a dit. Après, voilà, c'est Koe Sato qui le rappelle. Marx a dit ça en étant dans le Marx jeune. Le vieux Marx change quand même cette idée-là. Mais globalement, il a dit ça, donc du coup, il y a quand même une imprégnation de cette idée-là dans un marxisme, on va dire, durant l'histoire, quoi. Après, c'est factuel, le communisme moderne est produit du monde capitaliste. Oui, bien sûr, de ouf. Mais en fait, le truc, c'est que est-ce qu'on est obligé de passer par là ? Non, je ne pense pas. Même si je pense qu'on va le faire, mais on n'est pas obligé de le faire, quoi. Et du coup, elle est un peu là, la nuance. Ce travail a acquis aujourd'hui une importance considérable pour la simple raison qu'une réponse socialiste non productiviste est la seule alternative à la catastrophe écologique qui grandit sous nos yeux. Genre l'idée est bonne mais c'est trop tard, le monde est entièrement capitaliste. Oui voilà, c'est pour ça que en vrai, la merde, comment on appelle ça ? L'intuition était bonne, t'as raison. L'intuition était vraiment bonne. Après, faut pas le prendre comme un acquis, quoi. À travers son ouvrage, Tout peut changer, vous estimez que Naomi Klein oscille entre une alternative anticapitaliste autogérée et décentralisée, de type écosocialiste et écoféministe, et un projet de capitalisme vert régulé, basé sur une économie mixte relocalisée et imprégnée d'une idéologie aux soins et de la prudence. Ce flottement est-il également à l'œuvre dans les partis de gauche critiques qui, de par le monde, aspirent au pouvoir? Ça, en vrai, oui. Moi, ça, je suis d'accord avec ça. On l'observe hein, que globalement, on voit que en fait, les partis, le règle du jeu est tellement faite ainsi qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir être anticapitaliste radical, sinon on ne passe même pas l'étape des élections, quoi. Toute la gauche critique, comme vous le dites, est en effet confrontée à ce terrible problème. Il y a un gouffre entre le programme anticapitaliste très radical, qui est objectivement indispensable pour arrêter la catastrophe climatique, d'une part, et le niveau de conscience de l'immense majorité de l'humanité, pardon, d'autre part. Ouais. Mais Naomi Klein, dans son livre, a l'immense mérite de reconnaître d'emblée la difficulté. Je n'ai aucun doute sur la nécessité de mesures radicales, écrit-elle, mais je m'interroge tous les jours sur leur faisabilité politique. Voilà, en vrai, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on disait dans la vidéo d'avant. On expliquait ça justement dans la vidéo d'avant sur la limite à tout ça, quoi. Oui, mais justement, le mitterrandisme, c'était clairement de la gauche socialiste, enfin de la gauche libérale, par contre. Pardon, donc de la gauche capitaliste. Oui, le communisme comme le marxisme sont à mes yeux un bon tremplin pour écrire le futur, mais pas des dogmes à appliquer si on veut sortir du capitalisme consumériste. Ouais, exactement, c'est ça, de ouf. Dans le contexte de votre question, ce flottement m'apparaît comme plutôt positif. D'une part, cette franchise lucide fait défaut à beaucoup de partis. De l'autre, Klein ne se laisse pas enfermer dans la faisabilité politique. Bien qu'elle fasse, à tort, l'éloge de Energiewende allemande dans le contexte nord-américain, c'est pardonnable. Elle insiste surtout, à juste titre, sur l'importance stratégique de l'action directe non violente contre les projets fossiles extractivistes et appelle à une coordination internationale de la Blocadia. Sur ces deux points, elle est plus avancée, plus révolutionnaire et plus cohérente que la plupart des partis de la gauche critique parce qu'ils aspirent au pouvoir. Ces partis minimisent la radicalité des mesures à prendre. En vrai, ça, on le voit bien, ELV par exemple, tu vois. En particulier, ils encourent l'absolue nécessité de réduire la production matérielle et les transports pour atteindre les niveaux nécessaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mitterrand, premier social traître d'une bonne lignée, on rappelle bien le tournant de la rigueur et du full politique néolibéral. Oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Staline alors. Mais oui, mais même pareil, Staline, c'était un capitalisme d'État. Staline a été construit là-dessus, évidemment. C'est la critique majeure qui doit être adressée à la proposition du Green New Deal avancée aux États-Unis par Alexandra Ocasio-Cortez. Par exemple, la même critique doit être adressée dans mon pays au BTP, au PTB, Parti du Travail de Belgique, qui a réussi à percer une percée remarquable, mais se contente face au basculement climatique de promettre des transports gratuits et une révolution de l'hydrogène. Et ouais, hein, ça c'est un.
Qui ne serait pas profondément
Et une vraie critique
anticapitaliste
là-dessus, quoi. Merci
écologique
beaucoup, Poubelle TV, pour le raid. Merci infiniment. Let's go, les gens. Installez-vous bien. Voilà, vous êtes sur de la lecture. À chaque fois, vous arrivez sur de la lecture. Vive la Bravem. Ah, putain, non, c'est bon. Niquez-vous! Je sais que c'est faux. Ceux qui disent vive la Bravem, vous êtes pas des. Vous êtes des traîtres de Mehdi. Je sais, t'inquiète, t'inquiète, Mehdi. Je sais que je te fais confiance. Tu t'es fait. Par contre, tu t'es fait trahir par ton chat, hein. Pas super. Faut que tu remettes un peu d'ordre dans tout ça. Hein. Bref, installez-vous bien les gens. On est sur une critique de la collapsologie avec voilà, tout le truc de l'effondrement. On lit un article là-dessus qui prend un peu des bases de Marx. Donc voilà, donc installez-vous bien. Vous êtes encore sur la lecture, malheureusement. Vous arrivez un peu au mauvais moment, mais bon, c'est pas grave. Hein. Apprenez à apprécier la lecture. Et sinon, voilà, pour ceux qui savent pas, ici je parle d'écologie. Et donc des fois, je fais du react d'émissions ou de conférences, etc. Une chose est de mettre en avant des revendications partielles correspondant au niveau de conscience dans le but d'amorcer un processus de radicalisation par la lutte et de commencer ainsi à jeter un pont sur le gouffre. Autre chose est de faire croire que la concrétisation de ces revendications partielles par un gouvernement quelconque suffirait à empêcher que la catastrophe se transforme en cataclysme. Ah, donc ça, je suis d'accord avec lui. En gros, il expliquait que malheureusement, on a trop tendance à croire que les partis politiques vont réussir à modifier l'environnement et l'écologie. Et réussir à freiner les dégâts écologiques, Alors que non, il faut vraiment radicalement changer la société. Et malheureusement, les partis politiques, du fait de la volonté de vouloir être élus, doivent du coup ne pas prendre des positions très radicales. On arrive dans le chat et on parle du PTB, le parti dont je suis membre. Bah let's go, c'est à toi Médoche. Bah voilà, on a quelqu'un qui du coup s'intéresse à ces questions. Bah voilà, donc on parle de la personne à qui est interviewée. Putain, j'arrive pas à aligner des mots. La personne qui est interviewée, c'est Daniel Tanuro. Voilà, donc je pense que tu le connais, je suppose. Du coup, on continue. Car ce n'est pas vrai. Pour avoir une chance sur deux de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement sans recouvrir à des technologies d'apprentis sorciers, il faut que les émissions mondiales nettes de CO2 diminuent de 58% d'ici 2030, soit de 100% d'ici 2050. Ah non, pardon, 2050. Et soit négatives au-delà de cette date. Il est rigoureusement impossible d'atteindre cet objectif et même de s'en approcher sans rupture anticapitaliste révolutionnaire. On retrouve ici la question clé de la croissance. Voilà, on est clairement d'accord là-dedans. Le productivisme a historiquement gagné en nombre de courants de gauche depuis 2 siècles. Quelle place accordez-vous à cette notion ? Attends, quoi ? Le productivisme a historiquement gagné nombre de courants de gauche ? Ah ouais ? Moi, j'ai l'impression quand même que là, plus le temps passe et plus on tend vers des gens qui sont de moins en moins productivistes. Même si en vrai de vrai, oui, la gauche, vu qu'elle est impérialiste, elle est productiviste. Et du coup, il faut réussir à déconstruire ça, quoi. En effet, les conceptions productivistes ont été historiquement hégémoniques à gauche. Encore faut-il s'accorder sur le terme. Le système soviétique doit sans aucun doute être considéré comme productiviste, mais il s'agissait d'un productivisme bureaucratique absurde. Il était ancré dans la défense des privilèges parasitaires de la caste au pouvoir, pas dans les rapports de production. Ouais, globalement, c'est un capitalisme d'État avec une forme de bourgeoisie, etc. Ouais. Ce productivisme n'a pas plus à voir avec la pensée de Marx que l'Inquisition n'a à voir avec le message de Jésus-Christ. Dès les premières pages du Capital, sa comparaison des deux mouvements MAM et AMA amène Marx à la conclusion que le second, qu'il définit le Capital, implique forcément une tendance au développement sans fin. Cette tendance est au cœur du capitalisme puisqu'elle découle de son objectif fondamental, la production de survaleurs abstraites. Donc ça c'est un peu le béaba de comment fonctionne le capital, et globalement c'est toujours produire, produire, produire. Logiquement, y substituer la production de valeurs d'usage doit donc y mettre fin. Dans ses théories sur la plus-value, Marx revient sur la question par un autre biais, plus technique. La concurrence pour le profit conduit à une augmentation fantastique du capital fixe, donc à un lock-in technologique de long terme. Donc à une obligation despotique de produire le lock-in du capital dans le système énergétique fossile et ailleurs, est d'ailleurs un bel exemple. Ouais, j'ai pas tout compris là. Concluant le raisonnement, il révoque la tendance du capital à produire pour produire, qui implique aussi à le consommer pour consommer. Produire pour être une bonne définition du productivisme. Oui voilà, bah, c'est ça. C'est globalement tu produis pour faire du profit quoi. À cette aune, Marx n'est pas productiviste, en dépit de ses ambiguïtés prométhéennes, mais à cet égard, on peut douter qu'aucun marxiste l'ait été. N'avait-il N'avait-il et elle pas tous et toutes pour but l'instauration d'une économie axée sur la satisfaction des besoins humains réels par la production de valeurs d'usage ? Oui, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que, vu que la base est de répondre à des besoins humains, si on répond aux besoins humains, en fait, on va tendre vers une décroissance économique, puisque une fois qu'on aura eu tous les besoins répondus, bah, on n'aura plus besoin de produire des choses. Bon, je pense qu'il y a des limites à ça quand même. On voit ainsi que la question n'est pas si simple. En fait, l'emprise productiviste à gauche ne renvoie pas au « produire pour produire », mais à l'idée stratégique que le capital, en développant les forces productives, rapproche l'humanité de l'émancipation sociale, et du règne ou de la liberté. Or, au-delà d'un certain point, c'est le contraire qui est vrai. Il serait dès lors peut-être utile de distinguer le productivisme de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie productiviste de domination sur la nature ou l'idéologie instrumentale du progrès technique sans borne. Oui, voilà, en vrai, ça, je suis un peu plus d'accord là-dessus. C'est qu'en gros, il y a un moment, les besoins, faut même se questionner, est-ce que là, à l'heure actuelle, il n'y a pas des besoins qui sont créés dont on n'a vraiment pas besoin, vu que la plupart des besoins sont créés par le système capitaliste. Ah, il y a plein de choses qu'on pourrait ne pas créer et ça nous manquerait pas plus que ça. Oui, pour le capitaliste produit, il y a forcément un con qui va acheter. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Parce que, un con. Non, en vrai, c'est même pas une question de con, je pense que c'est un peu méprisant. C'est qu'il y a un mec qui a été nourri à la publicité qui va l'acheter. C'est plutôt ça la vraie réponse. Enfin, pour éviter un peu de taper bêtement sur les consommateurs. Selon moi, c'est cette idéologie qui n'est hégémonique à gauche depuis 2 siècles. Mais elle n'est pas facile à combattre car elle s'enracine non seulement dans une logique économique du capital, mais aussi dans la situation schizophrénique que cette logique impose aux exploités, contraints de revendre leur force de travail pour survivre. Voilà. Et là, il a vraiment raison là-dedans. Cette dure réalité fonde le productivisme dans la social-démocratie gestionnaire et dans les organisations syndicales réformistes pour lesquelles l'emploi dépend de la croissance. Et c'est pour ça qu'il faut sortir des logiques du marché, la santé, les transports, l'éducation, etc., pour permettre justement aux gens de vivre dignement sans logique de marché. Et si on veut d'autres choses, pour une première étape, et ben là, il faut être dans la logique de marché. Mais au moins, la vie digne, simple et, on va dire, tranquillement, vu qu'elle est sortie du système du marché, déjà, tu peux te sortir de la logique de l'emploi, etc. Donc, il faut déjà, je pense, un peu viser ce genre d'étape-là. En tant qu'éco-socialiste, nous sommes dans la continuité du Marx écologiste quand nous y opposons l'idée qu'il faut d'urgence produire moins et partager plus, notamment partager le travail nécessaire. Voilà, exactement. Un courant marxiste a pu soutenir l'idée que le capitalisme finirait par s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions économiques. Certaines critiques écologiques du capitalisme reprennent parfois ce type de discours aux accents théologiques, affirmant que l'ensemble de la société thermo-industrielle butera sur des limites physiques, naturelles et s'écroulera. L'écosocialisme n'a pas cet horizon. Des marxistes ont en effet soutenu cette idée mécaniste que la dynamique d'accumulation conduirait automatiquement à un écroulement du capitalisme. Ce fut notamment le cas dans l'entre-deux-guerres d'un auteur allemand, Heinrich Grossmann, qui avait fait un véritable dogme. Ok, je savais pas ça. Il y a effectivement des similitudes fortes entre cette théorie et celle de l'effondrement écologique inévitable de la société thermo-industrielle, qui est défendue aujourd'hui par certains courants verts, donc la collapsologie notamment. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'un petit courant marxiste-collapsiste a fait sa réapparition récemment dans le monde hispanophone, en Amérique latine notamment. Ok, je savais pas ça. Les écosocialistes, pour leur part, refusent ce fatalisme de l'effondrement. Que la situation soit gravissime, c'est l'évidence même. Mais le capitalisme ne s'écroulera pas de lui-même si sous le poids de ses contradictions internes, ni du fait de la crise écologique. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça, de ce que je lis, notamment avec le Guerre et Capital, c'est qu'en fait, justement, le capitalisme va utiliser toutes ces ressources-là et va réussir à faire du PIB sur l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement de l'écologie, du climat, etc. On peut penser, par exemple, aux petits drones pollinisateurs. Bon, tu vois, le fait de perdre la pollinisation, ça n'a pas fait perdre le capitalisme, c'est au-delà de ça même, ça l'a permis de se renforcer et de faire encore plus de profit en créant des drones qui pollinisent les fleurs. Sa logique pousse au contraire des secteurs de classe dominante à envisager des moyens néo-malthusiens, barbares, pour se sauver et sauver leurs privilèges. Voilà, c'est ça. Face à cette menace très concrète, je crains que le fatalisme de l'effondrement inévitable sème la résignation. Or, nous avons urgemment besoin de lutte, de solidarité et d'espérance. Voilà, je suis clairement d'accord avec ça. Des éco-socialistes critiquent le concept d'anthropocène car il invisibiliserait le rôle du capitalisme et préféraient utiliser celui de capitalocène. Dans notre 7e numéro papier, Agnès Sinaï nous disait « Le capitalisme est une explication nécessaire mais non suffisante de l'anthropocène. Il représente une dimension historique de l'industrialisme mais n'explique pas la fascination pour l'atome, la vitesse, les armes et l'hypermarché. » Quel est votre regard sur ça? Oui, voilà, d'où le capitalocène, d'où aussi le plantationocène, d'où l'occidentalocène, voilà, pour ceux qui veulent. J'ai fait un short justement récemment sur le sujet, je vous mets le lien. Là, je l'ai fait tout à l'heure, qui parle justement du fait que il y a différents termes, et en fait, en Occident, nous, on utilise cela, mais dans les pays du Sud, on n'utilise pas forcément ces termes-là. Je discute le concept d'anthropocène, mais je ne les combats pas. Je prends acte comme de la conclusion à laquelle les géologues parviennent à partir de leurs critères de géologue. La montée du niveau des mers, les éléments radioactifs, les milliers de composés chimiques artificiels et la chute brutale de la biodiversité laisseront dans l'écorce terrestre des traces significatives de l'activité humaine. C'est pour ça que l'anthropocène, elle est différente entre l'anthropocène, on va dire, géologique et l'anthropocène social. Mais je pense qu'il faut quand même critiquer ça parce que bon bah voilà, tous les humains ne sont pas égaux dans la critique, enfin dans les dégâts écologiques. Les géologues estiment que cela marque d'entrée de la planète dans une ère nouvelle, géologique nouvelle. Celles et ceux qui s'opposent au terme anthropocène ne contestent pas cette conclusion. Voilà, et là il a raison là-dessus. Le problème est donc sémantique. Certes, parler de capitalocène permet de pointer la responsabilité majeure du capital dans la destruction écologique, mais la médaille a un revers. On invisibilise la responsabilité des pays du dit socialisme réel. C'est pour ça qu'il ne faut pas un seul terme. Il en faut plusieurs, donc on peut, voilà, on peut parler sécularocène, capitalocène, plasticocène, plantationocène, etc. Et en fait, tous ces termes-là sont utiles et importants. Ouais, ça, le productivisme laisse des traces géologiques avec des pollutions. On a vu là, il y a des roches qui sont en train de se créer avec des roches, avec le système géologique, donc de la création des roches, des minéraux, où du plastique est intégré dans les roches. Donc c'est déjà en train de se faire. Or, cette responsabilité n'est pas mince. Pour rappel, avant la chute du mur, l'Allemagne de l'Est et la Tchécoslovaquie détenaient le record mondial des émissions annuelles de gaz à effet de serre par habitant. Ok, je ne savais pas ça. On peut s'interroger aussi sur l'utilité de cet escamotage au moment précis où nous avons besoin de comprendre pourquoi ces pays ont été productivistes, afin de ne pas retomber dans les mêmes ornières, à mon sens. Le point clé n'est pas la sémantique, mais la datation. Si les géologues sont cohérents avec leurs critères de géologue, alors le changement d'ère n'intervient pas avant la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui signifie que les interprétations misanthropiques du terme anthropocène sont contrées. Ce n'est pas l'espèce humaine qui est responsable, mais son mode historique de production. Ouais, mais là, je vois ce qu'il veut dire, mais bon, il joue un peu avec les mots. Mais en vrai, il n'a pas tort, mais c'est un peu. Ça efface quand même la colonisation, etc., quoi. Cet aspect est décisif, car le danger d'une misanthropie essentialiste basée sur une pseudo-science est très réel aujourd'hui et se développe dans le sillage de la barbarie capitaliste montante. En même temps, il est évident que le fait objectif du changement d'ère ne clôt pas le débat. Ok, c'est intéressant en vrai. Intéressant. Il ouvre au contraire et on voit bien à partir des arguments pro et contra que les critères des géologues sont inadaptés, en tout cas insuffisants pour la simple raison que les causes de changement d'air ne sont pas naturelles mais sociales, d'où la nécessité de la critique et de l'intervention des sciences humaines et sociales, histoire, sociologie et économie. Ah, très bien. Et d'où l'importance de l'historiographie. On avait déjà lu un article là-dessus avec l'Anthropocène noir de Malcolm Ferdinand. Et en fait, justement, de faire de l'historiographie des différents moments de l'histoire et de repenser un peu, enfin de retracer l'histoire avec les différents apports scientifiques pour un peu comprendre tout ça. Anthropocène noir, hop là, qui était très très bien, un très bon article. Je vous le partage pour ceux qui veulent. D'un point de vue économique, comment concilier les investissements gigantesques nécessaires à la transformation de nos systèmes productifs? L'énergie en premier lieu est une certaine décroissance du PIB. La question me semble mal posée.
Sans lutte des classes, antipathie,
Ah, let's go!
qui ne serait pas profondément antiraciste.
Merci Moufette pour le raid, installez-vous bien les gens.
Moins qu'une plantation.
Bon, vous êtes sur la lecture chiante, hein. Voilà, comme d'hab, hein, vous arrivez en fin de stream, on fait de la lecture. Donc, pour ceux qui veulent pas la lecture, vous avez juste avant un react. Et merci beaucoup Moufette pour le raid. Et vous inquiétez pas, parce que pour ceux qui étaient chez Moufette au début du stream, non, je ne suis pas l'horrible personnage. Qu'elle a cité. Voilà, vous inquiétez pas, vous êtes en bonne compagnie. Voilà, installez-vous bien. On lit un article sur la critique de la collapsologie avec une lecture marxiste. Salut à vous les gens, installez-vous bien. OMG, lecture de straight banger. Non, ouais, la lecture d'article. Bon, installez-vous bien, c'est le moment chiant, mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut passer par là. On vient pour se faire chier avec plaisir. Ah, ben voilà. Au moins, vous arrivez en connaissance de cause. C'est bien. Vous faites toujours des mensonges sur les gens, c'est un scandale. Ah bah oui, Robert, t'es bien placé pour savoir ça. Bref, allez, on continue. Du coup, là, on est sur une lecture de contre la collapsologie, donc vous êtes sur la moitié de l'article. La question me semble mal posée. D'une part, le PIB n'est pas un indicateur pertinent. Il faut impérativement, pour rester dans les clous écologiques, réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre, donc l'extraction, le transport et la transformation de matière. Donc, la consommation d'énergie.
J'arrive sur son truc, il est en train de lire un
Et oui.
article à chaque fois.
Par conséquent, la transition socio-économique doit être cadrée par des indicateurs physiques. D'autre part, et surtout, ce sont précisément les investissements gigantesques nécessaires à la transformation des systèmes productifs, en particulier du système énergétique, qui rendent indispensable la décroissance en question. La transition, en effet, ne consiste pas à dire qu'un système B pourrait fonctionner comme alternative au système A, mais à indiquer le chemin menant de A à B. Le système énergétique fossile n'est pas adaptable aux sources renouvelables. Ouais, en gros, ouais, de toute façon, on l'a vu plusieurs fois, il n'y a jamais eu de transition écologique, il y a toujours eu des accumulations d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut un vrai cheminement là-dedans, quoi. C'est vrai, le PIB n'est pas un indicateur pertinent. Bien sûr que non, c'est un indicateur tout pourrave. Et pour vous dire, le créateur du PIB lui-même a dit « Attention, cet indicateur n'est pas pertinent, il manque des informations, ne le prenez pas comme tel, c'est une erreur de le faire. » Qu'est-ce qu'on fait les États, ils ont dit « Oh bah très bien, ton indicateur il est très très bien, on va l'utiliser. » Alors que l'auteur lui-même a dit que non, il fallait pas le faire. Donc bon. Il doit donc être mis à la casse de toute urgence, un nouveau système doit être construit. La tâche est énorme et requiert inévitablement de grandes quantités d'énergie. Aujourd'hui, globalement, cette énergie est fossile à 80%, donc source d'émissions de CO2. En d'autres termes, toute autre chose restant égale, la transition elle-même sera la cause d'un supplément d'émissions. Voilà, et ça, c'est important de le rappeler. Si on fait une transition et qu'on reste dans un système productiviste, on aura les mêmes choses. Les gars, il manque de pertinence. Globalement, Alsace, tout à l'heure, il y a un exemple qui était dit. Si tu as un crash pétrolier, et du coup, il va falloir nettoyer la mer, etc., et ben en fait, ça va créer de la richesse parce qu'il va falloir avoir des assurances qui vont augmenter le PIB. On va falloir mettre en place un nettoyage de la mer, du coup employer des gens, donc tu vas augmenter le PIB. Il va falloir, réparer le bateau, donc construire un nouveau bateau, donc créer du PIB. Alors que derrière, il va avoir des répercussions écologiques qui sont énormes et sociales aussi. Hein. Et en fait, le PIB, c'est toujours l'accumulation de la croissance, mais la croissance peut amener sur des négativités. Et tu peux prendre aussi l'Ukraine. La guerre en Ukraine va factuellement augmenter le PIB. Parce qu'il va falloir reconstruire, parce que le PIB lié à l'armement, etc. etc. Donc non, le PIB n'est pas pertinent parce qu'il ne prend pas en compte les connaissances sociales, etc. Tu vois. Or, celles-ci doivent commencer à diminuer tout de suite et très radicalement, comme je l'ai dit. Dans le cadre de la logique capitaliste d'accumulation, le problème est rigoureusement insoluble. Si l'on met de côté le climato-négationnisme de Trump et Bolsonaro, la seule réponse au système consiste à développer des technologies insuffisantes, incertaines et dangereuses, comme les nucléaires et la bioénergie avec capture de séquestration du carbone. Donc ça on avait vu, hein, c'était pas très fonctionnel, on avait vu une vidéo du Monde qui était très bien là-dessus. Plutôt que de tout mettre en œuvre pour ne pas dépasser le seuil de dangerosité de 1,5 degré, on choisit de dépasser ce seuil dans l'espoir que ces technologies permettront de refroidir la Terre par la suite. C'est une folie intégrale. Un non-sens absolu. Pourtant, c'est vers ces solutions d'apprentis sorciers que le capitalisme vert s'oriente aujourd'hui. Donc tout ce qui est géo-ingénierie globalement. Pourquoi ? Parce que la seule manière rationnelle d'équilibrer l'équation climatique est intolérable pour lui. En quoi consisterait-elle ? Il faudrait décréter une mobilisation générale, dresser un inventaire de toutes les productions inutiles ou dangereuses, de tous les transports inutiles et les supprimer purement et simplement, sans indemnité pour les actionnaires, jusqu'à atteindre les réductions d'émissions nécessaires. Voilà. En vrai, il l'a bien résumé. J'aime beaucoup la manière dont il le résume. Il va de soi que cette opération requiert des mesures draconiennes, notamment la socialisation des secteurs de l'énergie et du crédit, la réduction massive du temps de travail sans perte de salaire, la reconversion des personnes dans des activités utiles avec garantie du revenu et le développement de services publics démocratiques. Ok, bah, incroyable. Let's go le terraforming, let's go. Nouvelle question. La décroissance a été qualifiée de « mot obus ». La collapsologie, par l'attrait qu'elle exerce, y compris auprès de personnes du groupe social peu politisé, est-elle un mot aimant ? Ok, obus aimant, bon, pourquoi pas. Sauf que pour l'Ukraine, le PIB bougera quasi pas, car aussi bien reconstruction ou armement sont des contrats avec l'étranger. Oui, non, mais globalement, pas forcément le PIB de l'Ukraine, Noirlam. Globalement, ça va augmenter le PIB des pays qui vont profiter de ça, quoi. Bien sûr que ça va pas forcément augmenter le PIB de l'Ukraine, mais... La guerre en Ukraine va faire augmenter le PIB des pays qui vont profiter de cette destruction-là, quoi. Mais t'as raison, pas forcément l'Ukraine. Twitch, on le place dans l'utile ou dans l'inutile ? Bah, Twitch, c'est un outil capitaliste qui est à la base, on va dire entre guillemets, inutile, mais qui a été rendu utile d'une certaine manière. Et en vrai, je dis inutile, non, parce que ça reste un divertissement et je pense qu'il faut du divertissement. Après, là où je pense que c'est inutile, par exemple, c'est d'avoir des Twitch. Enfin, je pense pas qu'il y ait 4K, tu vois. Mais par exemple, pouvoir faire des Twitch en 4K, Bah, ça, c'est inutile, tu vois. Je pense que tu peux très bien profiter d'un Twitch en 1080p. Et en vrai, je pense que, voilà, ça, les médias en général, c'est ça, c'est que les médias sont importants. Je pense qu'il faut juste nuancer, c'est jusqu'où l'importance des médias est-elle utile. Et avoir du 4K pour des vidéos, bon, je pense pas que ça soit très pertinent. Je pense que tu peux réduire ça. Et même, tu vois, genre, ne pas mettre en place des outils pour avoir que l'audio, qui est vraiment directement intégré dans l'outil. Bah, c'est quand même problématique, tu vois. Tu devrais avoir un système qui permet d'avoir que l'audio et de pouvoir couper la vidéo. Après, c'est des trucs très bêtes, hein. Mais c'est important de quand même mettre en place des opportunités réelles d'accès à des gestes comme ça, tu vois. Twitch minimum en hologramme 8K Dolby Digital. Non. Même en 720p, c'est suffisant. Ouais, mais moi, la plupart des streams, je les mate en 360p, en vrai de vrai, hein. Il y a sur téléphone le mode audio pour Twitch. Ouais, il existe sur téléphone, t'as raison. Mais c'est dommage qu'il n'existe pas sur le mode PC, tu vois. Parce que moi, il y a plein de moments où je pourrais couper le truc vidéo et faire que de l'audio, tu vois. Twitch est un outil comme un autre, tout dépend ce qu'on en fait. Ouais, globalement, c'est ça. Après, ça fait chier que ça soit tenu par Amazon et du coup des capitalistes, tu vois. Mais bon, c'est voilà, pour le moment, ça existe, donc faut faire avec, hein. Et le pire écolo, l'HD c'est trop bien. Mais non, mais Alsace, désolé, mais oui, quand je mate des streams Smash ou des trucs comme ça, je mets en HD. Mais quand je mate des trucs un peu inintéressants, bah, je mets en 360p, je m'en fous, tu vois. Mais quand je mate, oui, quand je mate des tournois de Smash ou de Mahjong, bah, je mets en 1080, évidemment. Oui, mais même en mode audio, tu peux pas mettre en veille le téléphone. Ouais, de ouf, Ziluc, de ouf, de ouf. Bon, bref. Donc, après, là, ça reste un peu des trucs individuels, mais voilà. Mais du coup, c'est important d'avoir les deux. C'est important d'avoir les deux options. Mais un mot aimant vers quoi ? Toute la question est là. Les collapsologues ne sont pas toujours très nets. Il y a des nuances et des variantes dans leur discours. Mais en définitive, ils tendent toujours à revenir à l'affirmation que l'effondrement est inévitable et que la seule réponse consiste à créer des petites communautés résilientes, car il n'y aura pas d'autre moyen de survivre après l'apocalypse. Voilà, donc ça se critique. Dans leur dernier ouvrage, Un autre fin du monde est possible, Pablo Servigne et ses amis vont jusqu'à écrire que l'effondrement, c'est comme la maladie de Hutchinson, une maladie dégénérative, héréditaire et mortelle. Il faut l'accepter et arrêter de se battre. Ah ouais ? Oh la dinguerie, je savais pas qu'ils avaient dit ça. Ah ouais, c'est chaud. Au lieu d'identifier le capitalisme comme la cause principale, je ne dis pas la seule, de la destruction de l'écologie, ils naturalisent les rapports sociaux et font planer sur nos têtes une menace aux accents bibliques. À partir de là, toutes les dérives idéologiques sont possibles et une autre fin du monde, hélas, n'en manque pas. Ah putain, je savais pas que c'était à ce point-là dinguerie. Ah ouais. T'as dit Mahjong, c'est important d'avoir une qualité là. Bah, en vrai, oui, au moins voir les tuiles, quoi. Mais Mahjong, ouais, ça me fait chier de le mettre en pixelisé, quoi. En vrai, non. En vrai, je dis ça, mais la plupart des streams Mahjong, je les mets en 360p. Mais genre, quand je veux me concentrer sur un match, bah ouais, je le mets en 720. Hein. C'est logique. Ceci dit, l'attrait de la collapsologie est indéniable. Et pas unilatéralement négatif. Il s'explique évidemment par l'angoisse face aux menaces terribles que la destruction de la planète fait peser. Et il faut mettre actif des collapsologues d'avoir contribué à informer de la gravité de la situation. Ça, je suis d'accord. En vrai, de vrai. Mais cet attrait renvoie aussi, chez certains, à une prise de conscience politique de la nécessité de rompre profondément avec la société actuelle, son productivisme et son fétichisme de la marchandise. Il y a là un paradoxe. Alors qu'il semble incapable d'expliquer pourquoi le capitalisme est si destructeur, les collapsologues entrent néanmoins en écho avec les couches sociales, jeunes notamment, qui cherchent des réponses anticapitalistes. Vis-à-vis de ces milieux, il est donc important de mener le débat. Eh, c'est intéressant comme vision de la collapsologie. En particulier, je crois important d'expliquer que le scénario d'inspiration anarchiste d'un effondrement du capitalisme ouvrant la voie à la société autogestionnaire basée sur les communautés locales ne permet pas de faire face aux défis globaux de la transition. Oh, c'est intéressant. En vrai, je suis un peu d'accord avec ça. Je pense que globalement, je pense pas que ce soit possible, mais ça reste à nuancer. La complexité des défis requiert une action planifiée. J'adhère à 100% aux idées d'autogestion décentralisée, mais la transition requiert à la fois la centralisation et la décentralisation, la planification et l'auto-activité. Voilà, je suis d'accord avec ce point de vue-là. L'histoire a montré des risques terribles de dégénérescence propres à cette combinaison des contraires. Mais la bureaucratisation ne saurait être évitée en se projetant, au-delà de la transition, dans un futur autogestionnaire radieux, sans état ni parti. Il faut un programme pour la combattre. C'est bizarre qu'ils ne pointent pas le capitalisme alors que c'est l'économie mondiale qui rythme tout. Ouais, c'est ouf, hein, mais après, c'est la critique de Pablo Servigne. Hein, on a vu qu'il était. On a vu que Servigne était pas basé, quoi. Il est réaliste et tout. Ouais, moi, je suis d'accord avec cette posture-là. Hein. Je pense qu'on peut pas. On pourra pas. Enfin, il faut planifier, qu'on peut pas du jour au lendemain faire ça. Hein. Non, mais j'en ai juste le coût d'importance, ça reste quand même très personnel. Oui, bien sûr, mais après, moi, en vrai, Asterix, si tout était en 720p, ça me dérangerait pas. Hein. En estimant que certains d'entre eux naturalisent les rapports sociaux, vous avez reproché aux calopsologues de plonger dans la régression archaïque. Je ne dis pas que la naturalisation des rapports sociaux débouche inévitablement sur la régression archaïque, mais elle favorise indiscutablement. Et c'est vrai qu'elle permet aussi de l'essentialisation assez facilement, et du coup, bah, des moves un peu racistes, quoi. Si on n'identifie pas les responsabilités historiques majeures du capitalisme, comment faire prise ou est l'issue possible? Pour certains, il n'y en a pas. La Terre souffre d'une maladie qui s'appelle l'humanité et n'en guérira qu'avec l'élimination de cette engeance. Ah ça, je trouve que c'est une tech éclatée. C'est malheureusement la conclusion cynique de James Lovelock au terme de son livre sur l'hypothèse de Gaïa, par exemple. Voilà, bah, ça m'étonne pas du tout que le mec ait cette hypothèse-là. Les collapsologues sont certes pas rangés parmi les cyniques. Issue pour eux serait psychologique. Nous devrions passer par une phase de deuil, redécouvrir notre inconscient collectif et notre archétype, notamment les archétypes masculins et féminins, profondément enfouis depuis la préhistoire. Ah ouais, ça glisse vraiment masculin sacré et féminin sacré. Hein. C'est pour ça qu'il a glissé là-dedans, Servigne. Mais ouais, moi Lovelock, ça m'étonne pas. De toute façon, je suis pas fan. Hein. Tout ce qui est deep écologie, hypothèse de Gaïa, etc. Je m'en doutais que ça glissait sur ce genre de propos. Nous devrions pour cela pratiquer des rituels visant à retrouver le sauvage en nous. Bref, la clé de l'avenir serait à chercher dans le passé le plus lointain, conformément aux élucubrations réactionnaires de Carl Gustav Jung. Alors en vrai, il a raison. Là où je suis d'accord avec lui, c'est ça. C'est que pour moi, tout ce qui est le fantasme d'un passé, etc., pour moi, ça, c'est des trucs très réactionnaires, presque fascisantes. Il ne faut pas, en fait, faut faire gaffe à ça, quoi. Globalement, tout ce qui est bandeur du passé et fantasmer la société d'avant, c'est surtout voilà, des idées de très réactionnaires de garder la société actuelle et voire même, du coup, retourner en arrière pour avoir une société qui fonctionnait. Alors qu'en vrai de vrai, bah, le monde change et du coup, même si tu reviens en arrière, ça ne fonctionnera pas comme avant, quoi. Et voire même, avant, ça ne fonctionnait pas tout court, quoi. C'est cela que j'ai désigné par l'expression « régression archaïque ». Mais celle-ci cohabite avec d'autres tendances comme l'éco-spiritualité, la collapsologie est traversée de nombreuses contradictions. Mais au vu des dizaines d'années d'inaction, des pouvoirs en place et des rapports de force actuels, on peut redouter un maintien du statu quo, un scénario business as usual. Parler d'effondrement pour nommer les catastrophes qui en découleraient ne relève-t-il pas du tout de même d'un certain paradigme, pragmatisme ? Après, là où il faut nuancer, c'est que oui, bon, l'effondrement, c'est bien, mais encore une fois, c'est un discours dans le Nord, quoi. C'est que dans les pays du Sud, l'effondrement est déjà là. Effondrement des populations, effondrement de l'écologie, les niveaux marins qui augmentent, etc. C'est déjà en train de se passer dans le Sud. Si l'on emploie le conditionnel comme vous le faites, et qu'on parle d'effondrement au pluriel et des catastrophes au pluriel comme vous le faites, le pessimisme est certainement une forme de lucidité. Mais ce n'est pas ce que font les collapsologues. Ils ne parlent pas des effondrements, mais de l'effondrement absolu et de ce super concept absorbe de tout indistinctement. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et je pense qu'il faut nuancer ça. Non, si tu réhabilites les services publics, tu vois forcément le passé en mieux. Oui, non, mais frérot, oui, on est d'accord. Mais en fait, c'est pas forcément... Enfin, mais non, même, c'est même pas le passé. C'est juste, c'est pas de réhabiliter les services publics en mode comme le passé. C'est de dire, il faut trouver de nouvelles manières de voir le monde et du coup oui s'il faut remettre en place les services publics comme ça, enfin pour moi c'est pas revenir, enfin ouais je vois ce que tu veux dire mais c'est jouer avec les mots, mais oui bon, tech de merde, hein. Je vois, là j'avoue tu mets un peu tu me cornerises un peu mais je vois l'idée mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais, on exploite le monde entier, on se développe et après on vient dire aux autres que ça y est c'est fini le développement, oui voilà c'est ça, mais comment je pourrais construire un argumentaire là-dessus, tiens c'est intéressant comme critique. En vrai, la critique, ça serait de dire le passé n'était pas 100%, sociable, enfin social, et du coup, il faut aller viser encore plus loin. Et du coup, ce n'est pas revenir dans le passé, c'est d'aller encore plus loin dans un futur plus loin. Voilà, si je pourrais rebondir à ton argument. Depuis les effondrements boursiers jusqu'à ceux des batraciens et des insectes, tous les phénomènes sont réunis comme s'annonçait à la fin du monde. L'ample recours aux références scientifiques confère à ce discours une apparence de rigueur, mais n'en est rien. D'abord parce que les références sont sélectionnées, mais surtout parce qu'il y a un vice de méthode. On peut s'appuyer sur les deux modes cognitifs qui sont la raison et l'intuition, comme écrivent Servigne et ses amis. Mais une condition, que la raison tente d'embrasser à la fois la destruction anthropique de l'environnement, d'une part, et la responsabilité précise de la forme sociale historique responsable aujourd'hui de cette destruction, d'autre part. Sans articuler ces deux volets de la réalité, plus on accumule les données relatives à la destruction, plus la question posée au public, où votre intuition vous dit-elle que cela vous nous mène, aura de chances de déboucher sur la réponse souhaitée. Tout va s'effondrer. Sans conscience sociale, l'intuition est biaisée, le raisonnement est circulaire et on fait de la pseudo-science. Ah ouais, c'est un peu une critique en mode, un peu comme les sondages quoi. Les sondages en fait, c'est un outil qui est pourrave parce que si tu construis la question des sondages d'une certaine manière, tu auras globalement la même réponse, quoi. Ou peut-être un passé dans le futur, mais pas vraiment un retour en arrière. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il faut aller au-delà de ça. Du coup, l'idée, c'est de dire on peut utiliser des idées du passé, mais il faut les réactualiser, quoi. Mais bon, je sais pas. Mais c'est intéressant comme point de vue, Moutarde. J'y réfléchirai. Vraiment, la question est intéressante. Dès 2007, vous vous êtes penché sur le best-seller du scientifique Jared Diamond, Effondrement. Vous lui contestez l'idée que la croissance démographique serait un facteur surdéterminant de la crise environnementale. Pourquoi ? Ah bah oui, bah ça, classique, hein. Les effondristes sont en général très malthusiens. Voilà, c'est un peu l'idée de base. Il est évident que la démographie est un élément de l'équation environnementale. Ce que j'ai contesté chez Diamond, c'est autre chose. Et sa tentative de faire de la démographie le facteur surdéterminant, l'explication en dernière instance des soi-disant effondrements de sociétés humaines. Et par conséquent, le levier majeur d'une politique visant à les éviter. Voilà. Alors qu'en vrai, on pourrait vivre avec plein de gens sur Terre sans qu'on consomme autant, et du coup, on pourrait drastiquement réduire tout ça, quoi. Depuis lors, les critiques que j'ai formulées ont été amplement confirmées par de nombreux travaux scientifiques. Il a notamment été démontré de façon incontestable que l'explication de l'effondrement de l'île de Pâques, avancée par Diamond, la théorie de l'écocide par une population dépassant la capacité de charge de l'écosystème et présentant tous les signes d'une hubris délirante, n'était qu'un bout à l'autre d'un un tissu de contre-vérité créé de toutes pièces. Ok, ça c'est intéressant à avoir en tête. Loin d'être les brutes imbéciles décrites par Diamond, les rapas Nui, ah voilà, donc ouais, le côté très colon quoi. Ah, regardez, les mecs de Polynésie, c'est vraiment des sauvages, ils savent pas gérer leur vie. Du coup, il faut vraiment... Ils ont détruit leur population, quoi. MDR. Les Rapa Nui, non-polynésiens des Pascouans, avaient déployé des trésors d'intelligence pour protéger l'environnement de leur île, y compris aux besoins contre leurs propres erreurs. Ce sont les raids esclavagistes et colonialisme qui ont détruit cette civilisation remarquable et ruiné définitivement l'écosystème. Mais cette vérité a bien du mal à sortir du puits. Surtout en France, où les plus hautes autorités de l'État continuent à promouvoir le best-seller Effondrement, qui a fait succès de Diamond. J'espère que les collapsologues finiront par se distancier de ce personnage réactionnaire et raciste. Et ben voilà. Et ben oui, tout simplement, c'est basé. En vrai, je m'en doutais que c'était ça. C'était obligé que, comme la plupart des populations du Sud, c'est qu'elles sont disséminées par le marché de l'esclavage, parce qu'ils arrivent avec des maladies, ils arrivent avec une mauvaise santé, et du coup, ils détruisent tout le monde, quoi. Donc, ok, bah hyper intéressant. Pour ceux qui veulent, l'article, c'était Daniel Tanuro, une interview d'Alina Tanuro sur la collapsologie.